Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kerbrand avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Les impasses de la migration, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que les politiques se durcissent contre les exilés qui tentent de fuir des destins parfois funestes, mais pour les femmes, les dangers sont encore pires. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, des récits, des cours de couture et une femme qui a vaincu sa peur dans une forêt. Mais pour commencer, troisième épisode, on fait les présentations.
Chez Camille, employée à l'Amatrami, association meusienne d'accompagnement des trajets de vie des migrants. C'est ça, Camille ?
J'ai l'impression que tu le déchiffres.
Ok. Alors, chez Camille, employée à l'Amatrami, l'association meusienne d'accompagnement des trajets de vie des migrants. C'est ça, hein, Camille ?
Oui.
Femmes migrantes, femmes aidantes. Raphaël Kraft et Guillaume Baldi.
Je m'appelle Camille Schmoll, je suis directrice d'études à l'OHESS, je suis géographe et je m'intéresse depuis une dizaine d'années aux trajectoires migratoires des femmes dans l'espace méditerranéen et en particulier à leur arrivée en Europe du Sud, en Italie et à Malte. Il y a toujours eu des femmes en migration. On les a simplement occultées pour différentes raisons en fait, et c'est à l'initiative de femmes, de chercheuses féministes, que depuis les années 60-70, on va dire, on redécouvre la part des femmes dans ces migrations. Mais il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. On sait qu'elles étaient très nombreuses dans les circulations, dans les migrations, les grandes migrations transatlantiques. De la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. On sait qu'elles étaient très nombreuses en France au début du 20e siècle. On sait qu'elles étaient nombreuses aussi pendant la période fordiste, hein, dans l'après-guerre, même si on se focalisait davantage sur les hommes qui allaient travailler dans les usines. Et encore aujourd'hui, elles constituent la moitié de la population migrante dans le monde, à peu près.
Même
un petit peu plus en Europe. Et sur les routes de la migration dite irrégulière, on pourrait discuter de cette expression, mais c'est l'expression consacrée par les institutions comme Frontex. Sur les routes de la migration irrégulière, on peut estimer qu'elles sont entre 15 et 20% des arrivées, donc probablement plus nombreuses au départ. On sait qu'il y a une mortalité particulièrement élevée des femmes en route, qu'elles risquent plus que les hommes. Donc, c'est pas rien. C'est minoritaire, mais tout de même, par rapport aux représentations qu'on peut avoir de ces migrations-là, qu'on représente comme un phénomène essentiellement masculin, c'est important.
Camille Georges, médiatrice socioculturelle à l'Amatrami.
Voilà, je c'est foutu. Je peux recommencer ?
Qui sont toutes ces femmes que vous nous avez présentées ?
Ce sont des femmes d'horizons divers qui ont toutes une histoire différente. Il y a des femmes d'Europe de l'Est, d'Afrique, de Moyen-Orient, d'Amérique latine.
Donc il y a Salimata, Mireille, Aïcha.
Qui s'implique beaucoup à l'Amatrami, qui m'a beaucoup aidée dans la traduction en arabe du livre des femmes. C'est un livre qui avait été commencé par ma collègue Claire Després, qui actuellement a quitté l'Amatrami. Et ça s'appelle « Le pays d'où elles viennent ». Et c'était pour valoriser l'histoire des femmes et essayer... aussi d'apporter quelques éléments aux Français et aux Meusiens qui se posent des questions sur ces personnes migrantes.
Et Salimata ?
Salimata, qui est une jeune femme de Côte d'Ivoire, qui est arrivée l'année dernière en France et qui vient juste d'être régularisée. Elle est aussi investie, elle fait du bénévolat au Secours catholique. Voilà, ce sont des femmes qui fréquentent les différents ateliers de la Matrami.
Et aussi Lucette, Colette, Khadija.
C'est des femmes que je ne vous présente pas. Et qui sont somme toute incroyables aussi, qui apportent, qui ont porté, qui portent la Matrami, sans aucun doute.
Il y a des fleurs, des plantes, des choses qui poussent, quelquefois où il ne faut pas. Bon, ben écoutez, c'est comme ça. Hein. Entrez. Voilà. Alors ça, c'est mon chez-moi. C'est bon chez moi. Et je vis une partie du temps au rez-de-chaussée, une autre partie du temps au premier étage, où là je retrouve mon cousin qui a 90 ans. Voilà. Asseyez-vous. Est-ce que vous voulez un jus de fruits frais?
Ah oui.
Bon, alors ça je peux. Alors.
Avec des petits gâteaux? Ah non, bah alors non.
Merci. Voilà. L'ananas, ça va?
C'est parfait. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Lucette?
Eh bien, je m'appelle Lucette. La mousse. J'ai 81 ans. Il paraît. Disons que... Je suis meusienne, même si je ne suis pas née en Meuse. C'était un peu plutôt... C'était au début de la guerre, c'était plus un cumul d'accidents. Donc, voilà. Et j'étais enseignante.
Donc, 1968, vous avez 28 ans, et c'est la création... Alors, 1968, c'est 1968, mais c'est surtout la création de... La Matrami, donc l'association meusienne
d'accueil des travailleurs migrants, parce qu'il a changé de nom après. Alors c'est le moment où il y a eu un travail de réflexion sur le plan départemental pour connaître les besoins du département de la Meuse, qui est un tout petit département. Actuellement, il y a
un conseil économique et social.
Comme un conseil économique et social. Et trois grands axes sont sortis, dont le problème des migrants, qui étaient à ce moment-là, j'allais dire, c'était des travailleurs. Il y avait encore donc l'immigration, emploi, et sur Verdun, il y avait encore du travail. Donc voilà. Et on a créé seulement l'association en 72.
En 68-70, c'était donc une immigration de travail à laquelle vous avez affaire. Ce sont donc essentiellement des hommes. Quand est-ce que vous voyez apparaître des femmes migrantes au sein de votre association, la Matrami?
Alors, j'ai bien vérifié.
Alors, étant entendu que la migration féminine existe déjà,
tout à fait.
En 46, c'est déjà moitié de femmes, moitié d'hommes qui viennent en France.
Oui. 1974, c'est l'arrêt de l'immigration au niveau du travail. Presque un petit peu en compensation au niveau politique, on a donc créé, ouvert le regroupement familial. Disons qu'à partir de 1975, au compte-gouttes, on a accueilli les familles. À partir du moment où les femmes sont arrivées, nous avons eu, au niveau associatif, un temps creux. C'est-à-dire que on voyait plus personne. Les hommes, bien sûr, rentraient chez eux, puis ils étaient quand même contents de revoir leurs femmes, enfin, en principe. Donc, ils ne venaient plus au cours. Et, qu'on le veuille ou non, ils ne donnaient pas l'autorisation à leurs femmes de sortir. Parce que pour eux, je pense que c'était vraiment aussi une révolution au niveau de la vie. Autant ils vivaient avant en célibataire, bon, d'une façon ou d'une autre, mais en célibataire, autant là, il y avait et la femme et les enfants. Donc, nouveau problème, nouvelle situation, et pendant pratiquement 2 ans, on a répondu à des urgences de droit, de logement, de choses comme ça, mais plus du tout de cours.
Et alors, est-ce que vous allez vers ces femmes ?
C'est les femmes qui... C'est par relation. On connaît déjà un noyau de personnes. Les hommes ont fait du forcing pour que, enfin, ils nous laissent parler à leurs femmes, et puis en leur disant que de toute façon, c'est indispensable que eux, ils sont au travail pendant la journée, et que, un, leurs femmes s'ennuient, ils n'ont pas de contact, et qu'ils ne sont pas raisonnables s'ils continuent comme ça. Et on a cherché d'autres moyens pour s'adapter aux besoins des femmes. Et savoir aussi ce qu'elles voulaient. À partir de 76-77, c'est un autre projet.
C'était quoi les attentes de ces femmes ?
Oh, elles étaient perdues en arrivant. La première demande, c'était par les Français. Donc on a diversifié les cours et dès qu'on a pu, avec la mixité, ce qui est... On a eu plusieurs complications. La mixité, parce que les hommes n'acceptaient pas que leurs femmes aillent à des cours où il y avait donc une mixité. Et on a alors aussi donc diversifié les activités. On essayait aussi de trouver tous les moyens de prise de parole. Et avec une participation la plus grande possible des femmes.
Pourquoi une participation la plus grande possible des femmes ?
L'intérêt, c'était pas pour nous. L'intérêt, c'était que les femmes... Oui, mais je comprends bien.
Si je vous pose cette question, Lucette, c'est que la question des femmes en migration est un grand oublié.
Voilà, alors c'est la visibilité,
médias, la recherche,
la visibilité, l'autonomie, lutter contre les préjugés. Alors, nous, ce qu'on fait, j'allais dire, c'est
du bricolage.
C'est idiot, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Certains sourient au niveau des ateliers couture ou des ateliers cuisine. Mmh. Moi, je dis...
Parce que vous avez le sens... Ils sourient parce qu'ils ont le sentiment que vous rabaissez la femme à ses fonctions.
Oui, c'est ça. Et moi, je dis, c'est quand même pas inutile parce que c'est là où, très souvent, des échanges, petit à petit, entre elles... s'exprime.
Je m'appelle Khadija, donc voilà, parce que mon vrai prénom c'est Khadija. Donc je suis d'origine marocaine et de nationalité française. Et j'ai rencontré la Matrami en 1999. Voilà, j'étais bénévole. Et en 99, donc, je suis devenue salariée. Et c'est là, les femmes, quand elles ont, voilà, je suis là, donc je parle avec eux, et je commençais à proposer des choses pour les femmes, des sorties, beaucoup de choses. Ben, c'est là, c'est les femmes, ça commence à venir. Mais avant, là, les femmes maghrébines, à part aller prendre à écrire et lire, elles viennent pas. Donc, c'est des femmes qui sort jamais d'ici, même ici en France. Et ça commence petit à petit, je téléphone au mari, donc c'est vrai, leur mari, elle me fait confiance, donc et c'est là que je commençais à ramener au cinéma, au théâtre, et après au voyage, et après des sorties culturelles. C'est vrai, avant, c'est la maison, les enfants...
Alors ça, c'est pour ce qui concerne donc la question du regroupement familial qui commence au milieu des années 70 pour se poursuivre, on va dire, jusqu'à la fin des années 80-90. Mmh. Donc, vous trouvez des réponses à ces problématiques. Et aujourd'hui, à quel type de femmes avez-vous affaire et comment répondez-vous à leurs demandes spécifiques?
Déjà, on a peu de femmes maghrébines, donc on a beaucoup de femmes de l'Est. Donc, ça en est différent. Donc,
et d'Afrique aussi.
Et d'Afrique, oui. Donc, d'Afrique, ça fait pas longtemps.
Okay.
Mais avant, il y a 10 ans, on voit beaucoup des gens de l'Est, des femmes de l'Est, donc, qui sont toutes seules ou accompagnées avec les enfants ou le mari.
C'est vrai. La migration individuelle, la femme qui arrive seule, c'est quelque chose de nouveau aussi.
C'est de nouveau, oui, c'est vrai. Et aussi, moi, je trouve les femmes de l'Est ou des femmes africaines, elles sont beaucoup courageuses par rapport aux femmes maghrébines. Donc, c'est vrai, les femmes maghrébines, à l'époque, sont venues en groupement familial, faire les enfants, rester à la maison. Mais les femmes de l'Est, c'est vrai, elles sont très courageuses. Et elles viennent ici à la Matramie. Je l'admire beaucoup.
Pour quelles raisons vous les admirez?
Parce qu'elles elle vient toute seule. C'est vrai, c'est pas évident. Des fois, quand on rencontre leur parcours, c'est pas évident, c'est pas facile à traverser des fois
la Méditerranée,
à traverser le Sahara, ou traverser des champs, des jours et des jours avec des enfants sur le dos. C'est vrai, des fois.
J'ai l'impression que vous accompagnez beaucoup les femmes dans leur charge mentale. Vous voyez ce que c'est, la charge mentale?
Oui. Et je suis très... Avant, c'est vrai, j'étais jeune. Je supporte tout. Je rentre avec ça sur le dos. Je réfléchis. J'essaie de les aider à chercher des choses. Maintenant, c'est vrai, je suis devenue fragile.
Ah bon?
Oui. Ça me travaille, je dors pas. Et il y en a une là, une jeune, des fois elle vient, elle me dit j'ai envie d'un câlin. Donc elle met dans mes bras et commence à pleurer, je suis obligée de pleurer aussi. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident, la vie des femmes ici en France, c'est pas facile.
Pour quelle raison? Qu'est-ce qui manque?
La famille, donc, il y a la famille, et moi j'ai des femmes qui sont divorcées jeunes. Moi, il y a Anan, qui est très jeune, elle est divorcée avec 3 enfants. C'est pas évident, la famille ne sont pas là, donc, c'est pour ça qu'elle vient de temps en temps, elle me dit, je voudrais un câlin. Je pensais à ma mère, ils sont loin, ça fait 2-3 ans, elle n'a pas vu sa famille. Parce que moi, hier, Mairie, parce que moi, hier j'étais à Bar-le-Duc. Et comme par hasard, elle est venue à la poste, parce que j'étais à la poste. Et elle m'a vue, elle m'a dit, tu pars à quelle heure? J'ai dit, à 17h. Elle m'a dit, je peux partir avec toi? J'ai dit, oui. Donc, je l'ai ramenée avec moi. On a parlé que c'est de ses problèmes. Hier, elle a... des résultats négatifs
de l'OFPRA, oui.
Donc, elle a pleuré, j'ai pleuré avec. Donc, en rentrant, elle ne sait pas ce qu'elle va dire à ses enfants. Donc, la petite, elle ne comprend rien, c'est vrai, mais les deux grands... Donc, elle me dit, je ne sais pas par où je commence. Elle me dit, de toute façon, je ne pars pas, je reste ici pour mes enfants. Je n'ai pas envie de retourner en Albanie, donc... Donc voilà.
Gjithçka ishte shumë bukur. Çdo gjë kishte kuptim gjatë fëmijërisime. Dashuria familjare, harmonia.
Tout était très beau. Tout avait un sens pendant mon enfance. L'amour de la famille, l'harmonie, l'effort et le labeur aussi. Il m'aimait beaucoup. Mais cela n'a pas duré longtemps, jusqu'à l'âge de 16 ans, lorsque tout a commencé à prendre une tournure différente, après avoir rencontré mon ex-mari. C'était un couteau fermement ancré dans mon cœur, le déni que ma famille m'a fait subir à cause de ma grossesse, qui m'est arrivé à cause de la relation secrète avec mon ex-mari. Les traditions et les coutumes de cette province étaient très entachées de préjugés et intransigeant pour les soi-disant erreurs morales. Comme si cela ne suffisait pas, la grosse tempête venait de commencer dans mon mariage. La violence, morale, psychologique et physique, s'est intensifiée, au point que je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter le fait que je devais me rendre et vivre cette triste routine. Malgré tout ce qui s'est passé, il y avait un fort caractère en moi et un espoir que cette tristesse finisse un jour. Ma force et mon courage étaient mes enfants. De beaux et inoubliables souvenirs étaient les jours de mon enfance et le présent que je vis. Toutes mes défaites m'ont rendue plus forte et m'ont donné l'opportunité d'apprécier les valeurs de chacun. Dans la vie, nous devons avoir un motif : la tolérance, la compréhension, le respect et la paix.
Je m'appelle Mira.
Quand et pourquoi avez-vous décidé de quitter l'Albanie?
À cause de toutes mes difficultés, c'était plus la violence et c'était une vie pire pour moi là-bas. Et en plus, j'avais pas les soutiens familiaux à cause de mon mariage, parce que toute ma famille c'était contre moi. Et je vis sans ma famille. Tout c'était difficile quand tu n'as pas le soutien de ta propre famille, de ta mère, père, frère, tout ça. Tu te trouves dans une piège et tu n'arrives pas de sortir. Et à cause de cette violence qu'il m'a fait à moi et mes enfants aussi, c'était une fois il a fait un attentat de me tuer par mon conscience, je ne savais pas. Et après que je compris c'est le but, c'était ça. Et à cause de cet attentat, j'étais enceinte avec mon fils, mon premier fils. Et c'était un miracle de Dieu que je me disais on vit aujourd'hui. Mais mon fils, il y a toujours les difficultés psychologiques. Parce que j'étais enceinte, et j'étais 5 mois enceinte. Quand j'ai eu un accident, je me dis que ce n'était pas un accident, c'était le but de lui. En courant, en électricité, et c'était passé toute cette piège, toute cette... Que je n'arrive pas, même aujourd'hui, je n'arrive pas de quoi quand je pense tout à ça.
Et alors, que s'est-il passé finalement?
Finalement, c'était une difficulté économique qu'il a fait une tolérance parce que il n'avait pas les moyens et c'était une proche de ma famille qui m'a proposé un travail en Italie pour 3 mois. Et il était obligé de me laisser de quitter là-bas, même s'il est venu en compagnie avec moi. Et on est allé là-bas. Moi, j'ai travaillé 3 mois. Il est retourné. Il a pris la moitié du salaire. Et il est retourné. Et après, quand je finis le travail, je prends l'argent. Je me retourne en Albanie. Je prends mes enfants en cachette. Pour 2 jours, je quittais. Et c'est tout ça, c'était un miracle pour moi.
Et vous quittez l'Albanie avec quelle destination?
Les destinations, c'était la France. Toujours, c'était la France. J'avais un document. J'ai reçu un document d'une avocate parce que j'ai déjà fait un témoignage avec une avocate. Et voilà, juste ce document que j'avais, mais je sais pas, c'était négatif. Ils ont dit, oui, on te croit que tu t'es passé tout cela, mais tu n'as pas une preuve, un document qui prouve que tu t'es vraiment comme ça dans cette difficulté. Je monte les signes d'accident que j'ai eu. Et c'était le tribunal de Nancy qui m'avait donné le droit de rester en France et il a décidé de ne me pas retourner en Albanie. C'était une chance pour moi et c'était une grande faveur pour moi.
Est-ce que vous avez pu raconter votre histoire à l'OFPRA sans difficulté? Parce que ça ne doit pas être facile de raconter.
Je racontais tout ça avec les détails, parce que plus grande difficulté qui était, parce que c'était pas juste la violence, c'était une... Il m'avait emmené dans un hôtel et il m'a laissé à la main de d'autres quelqu'un.
Des menottes?
Oui, avec quelqu'un d'autre. Et c'était une solution qu'il peut... Il peut sortir de ce problème qu'il a fait. Il m'avait ramené dans cet hôtel. Il m'avait laissé à la main de d'autres quelqu'un. Je restais là-bas une semaine. La violence, elle est le terrible que je ne peux pas jamais dans ma vie oublier. Même si j'ai essayé d'oublier, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et je veux trouver où je me quitte de cette difficulté, où je vais me tuer. C'était l'unique mot juste. Parce que c'est pas que moi dans ma famille que j'étais comme ça. C'était la belle-sœur de mon ex-mari. Elle était tuée car son frère, quand son mari, frère de mon mari, elle était noyée parce que la violence, toute la vie, elle a eu la violence. Elle est à vivre dans un village. Et même la famille, eux ne peuvent pas faire parce que voilà, c'est dommage. Si notre fille, elle va divorcer, bah, on a honte et on ne peut pas accepter. Et elle est obligée de vivre, voilà. Elle avait cette chance avec son mari et voilà, elle doit accepter. Mais, bah, elle était noyée et voilà.
Élise Bulliard, animatrice famille à la Matrami.
Alors, on est au Café des Parents, organisé par la Matrami. On dit Café des Parents, mais c'est surtout des mamans qui se retrouvent. Alors, de temps en temps, on se retrouve pour parler d'un thème précis. Voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, par exemple, on avait parlé d'élever seul son enfant. Voilà. On a parlé aussi, les thèmes sont assez variés, on a déjà parlé des enfants et des écrans, de comment on a vécu le confinement, on choisit les thèmes ensemble. Et là aujourd'hui on se retrouve pour préparer la fête de quartier qui aura lieu au mois de septembre. On réalise des créations et il y aura une œuvre d'art qui sera installée au jardin du quartier au mois de septembre avec tout ce qu'on est en train de faire là. Et là du coup la discussion est libre, voilà.
Donc, on est dans une salle, il y a des tables qui sont disposées. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de femmes, toutes originaires de pays différents. Le continent africain subsaharien ici.
Fatima vient du Maroc, ouais. Et elles ont vécu en Espagne juste avant d'arriver en France. Voilà, Alina vient de Roumanie, Raïma d'Algérie, voilà.
Moi, j'ai des preuves dans mon téléphone que j'ai vécu en forêt au Maroc. Ouais. Mais l'OFRA nous dit d'éteindre le téléphone. Mais si ils nous laissent les montrer les preuves, c'est bon. Nous qui avons vécu le cas, ils ne nous croient pas. Oh putain, moi je suis venue, je suis sortie au pays avec mes trois enfants. On devait exciser mes deux grands enfants. Je suis sortie avec mes enfants, mais j'ai parlé à l'OFRA, mais ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont débouté. Mais voilà, je suis là.
Vous venez de quel pays?
Moi, je viens de la Côte d'Ivoire.
J'ai vu mes camarades qui sont décédés sur la mer. Et puis, on vient, on rencontre ça à l'OFRA. L'OFRA nous dit que ce n'est pas vrai.
J'ai des preuves. sont les
preuves.
Mais
j'avais
les preuves. C'est ça le problème chez eux. Vous pouvez livrer les preuves, présenter les preuves.
Tout ce que j'ai vécu,
ils s'en foutent de
tout
ça.
Tout ce que j'ai vécu, j'ai mis ça dans mon histoire. J'ai expliqué de A jusqu'à Z. Moi, ils ne m'ont pas appris.
S'il n'y a pas de preuves tangibles, ils ne donnent rien. Moi, j'étais demandeur d'asile. Mais à l'office, ça n'a pas marché. Quand je suis passée à l'OFPRA, ça n'a pas marché. On me dit que j'étais perplexe dans mes réponses. J'ai dit, mais j'étais oisif dans mes réponses, perplexe. Je ne savais pas qu'est-ce que je racontais. J'ai dit, mais c'est faux. Et une fois arrivée à la CNDA, j'ai prouvé par A plus B que c'était n'importe quoi. Parce qu'ils enregistrent les gens. Moi, j'ai dit, sortez les audios. Moi, j'aimerais, mon récit, il est là. C'est quand même dommage. Moi, j'aimerais qu'ils regardent cette situation-là, qu'ils viennent en aide envers les femmes, surtout les femmes. Surtout les femmes, telles que cette dame.
Pourquoi vous dites surtout les femmes?
Mais parce qu'elles souffrent. Chez nous, en Afrique, on connaît tous les réalités. Il y a la maltraitance, telle que celle de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas venue ici au hasard. Elle n'a pas fui son pays pour venir se réfugier ici. Si elle est venue se réfugier, elle a abandonné peut-être toute sa famille, je n'en sais rien. Elle n'est pas idiote, elle n'est pas folle pour le faire. Si elle est venue, c'est qu'elle a fui quelque chose.
Prendre le risque de mettre ses trois enfants sur la mer.
Non, c'est des risques qu'elle a pris.
Et puis un bâton gonflé. Hein.
Et vous avez quitté vos pays respectifs du fait de votre condition de femme là-bas?
À cause de maltraitance et à cause du mariage forcé.
Et vous-même?
Moi, c'est à cause de la maltraitance, la violence conjugale. Oui. Qui m'a fait quitter mon pays.
Mon mari a disparu dans la crise. J'avais trois enfants. Maintenant, on ne l'a pas trouvé. Son frère voulait que je me remarie avec lui. J'ai dit non, je ne voulais pas. Comme je ne voulais pas, à tout moment, il me battait avec les enfants. Il ne voulait même plus que mes enfants partaient à l'école. Quand j'habille les enfants matin comme ça pour que les enfants aillent à l'école, il les prend, il dit que les enfants n'ont qu'à aller au champ avec lui.
Camille Schmoll, géographe.
Donc la raison pour laquelle on va se mettre entre les mains de personnes qui vont éventuellement vous exploiter, qui vont éventuellement vous faire travailler pour vous faire partir, pour vous faire passer, c'est aussi lié à la situation de vulnérabilité dans laquelle on est au départ. Mais en réalité, c'est encore plus compliqué parce que, en réalité, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que les femmes qui partent...
Dans les damnées de la mer.
Dans les damnées de la mer, les femmes qui partent, partent aussi parce qu'elles ont pu conquérir au départ une certaine forme d'autonomie. Donc, c'est plus complexe, c'est-à-dire qu'en fait, la situation des femmes dans le monde, et notamment dans les pays d'origine de ces femmes qui partent, moi j'ai travaillé sur des migrations... plutôt subsaharienne et un peu maghrébine aussi. En fait, la situation des femmes est en train de changer à une vitesse folle. Alors, c'est très différent selon les pays, mais voilà, l'âge au mariage recule, il y a de plus en plus de femmes célibataires, il y a de plus en plus de femmes qui ne souhaitent pas se marier et qui vont le faire savoir. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont des mères célibataires. Et du coup, ces situations-là, qui paradoxalement peuvent amener aussi des formes d'autonomie, font que on ne peut pas rester dans les sociétés de départ, on est en quelque sorte surnuméraire, et du coup on va devoir s'engager dans une trajectoire migratoire. Donc c'est des changements du point de vue du positionnement social des femmes dans les sociétés de départ qui font qu'on va partir, mais ce sont des changements qui ne sont pas uniquement des changements négatifs, ça peut être aussi des choix de vie. Ça peut être aussi des choix de vie et de dire, voilà, je ne veux pas me marier, je veux vivre seule et je vivrai mieux seule ailleurs. Et c'est ça qui est assez fort du point de vue de la volonté de partir, c'est que souvent, les femmes que j'ai rencontrées, elles ont mûri leur projet. C'est-à-dire que même si, à l'origine du départ, il y a un événement, un phénomène, quelque chose de traumatique qui va se passer et qui va faire qu'elles vont prendre la route. Donc, en réalité, souvent, voilà, violence conjugale ou quand elles partent de pays particulièrement instables, ça peut être aussi des violences de genre liées à la situation politique. Hein, ça peut être des enlèvements, des mariages forcés, des viols de guerre, voilà. Mais en même temps, il y a eu aussi un moment où elles ont mûri leur projet migratoire, où elles ont mis de côté, où elles ont travaillé pour pouvoir éventuellement partir. Et donc, il y a quand même aussi une forme d'anticipation du départ. C'est toujours, il y a toujours un peu des deux. Et c'est ça qui est assez surprenant. C'est que c'est quand même quelque chose de mûri et de réfléchi.
avec la Matrami, avec Claire qui est partie. Elle nous avait organisé une fois une marche dans la forêt, à Verdun. C'est vrai qu'en entrant à la forêt, j'ai eu cette, un sentiment qui était un pas en avant, un pas en arrière. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, je ne connais pas ces gens, je ne connais pas la forêt, on pourrait être agressé, on pourrait. J'ai eu tout ce... C'est un truc que j'aurais jamais fait en Algérie. Mais alors jamais. Et au fur et à mesure, en entrant dans la forêt, en marchant, je me répétais dans ma tête, tu es en France, n'aie pas peur, t'es en France. Jusqu'où, voilà, j'avais plus cette idée dans ma tête. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ce sentiment, on va dire, de liberté et de sécurité en même temps. Parce qu'on peut être libre, mais quand on n'est pas en sécurité, ça sert à rien.
Aïcha, vous allez nous lire un texte que vous avez écrit. Dans quel contexte vous l'avez écrit ?
C'était pour la préparation d'un livre pour les femmes migrantes, pour l'association La Matrami. Quand je pense à toi, je souris, j'ai les larmes aux yeux, je ne sais pas si je ris, si je pleure. Suis-je triste ? Suis-je heureuse ? Un jour, je te quitterai et je serai libre. Je serai la plus heureuse des femmes, loin de toi. C'est ce que je disais, mais je ne le pensais pas. Je disais cela comme ça. Et je ne le disais pas si souvent que ça. Parce qu'au fond de mon cœur, je sais que nous sommes inséparables. Nous sommes faites l'un pour l'autre. Aujourd'hui, je suis loin de toi. Je t'ai quittée. Où est-ce toi qui m'as quittée? Je ne t'ai jamais, jamais trahie. Je te suis et je te resterai toujours fidèle. Même si je ne dors pas dans ton lit, même si je ne mange pas ta nourriture, même si je ne respire pas ton air. N'oublie pas, surtout n'oublie pas qu'aujourd'hui je n'ai pas le choix. Je ne veux pas vieillir loin de toi. Et tu vois, finalement, tu me manques. Et tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. Beaucoup. Je te prie juste de me pardonner. De pardonner ma faiblesse. Alors pardon. Pardon, mon Algérie. Je ne l'ai pas lu depuis longtemps, mais à chaque fois que je lis, c'est comme ça. Alors, c'est plus fort que moi. Quand j'ai eu mon bac...
En Algérie ?
Oui. On m'a proposé de terminer mes études ici en France. Je n'ai pas voulu le faire. Après, j'ai terminé mes études en Algérie, j'ai eu ma licence. Et il y a quelqu'un de la famille qui avait demandé ma main pour me marier ici en France. Et pareil, je refusais parce que c'était la France et c'était loin de ma mère, loin de la famille. Et voilà. Et c'est vrai qu'on m'en voulait un peu sur ce point. On me disait, voilà, tu serais mieux si tu étais mariée en France. Mais après, voilà, je me suis mariée en Algérie, j'ai eu mes enfants en Algérie. Voilà, je travaillais, c'était voilà, une vie de femme normale, on va dire. Et puis, les choses ont changé derrière moi. Car avec le travail de mon mari, qui était haut fonctionnaire dans l'État, donc, il a eu beaucoup de problèmes. Et Mes enfants étaient menacés, donc on a été obligé de quitter l'Algérie. Et on a fait une demande de visa. On croyait qu'elle serait refusée parce que les gens autour de nous avaient tous des refus. Mais nous, comme on était les deux, on travaillait tous les deux, on avait de très bons salaires et tout. Donc on a eu notre visa et on est venu, on a fait une demande d'asile. Ce qui n'était pas vraiment facile pour nous parce que on a trahi quelque part notre pays. C'est ça qui nous a fait, on va dire, qui nous a fait mal. Parce que, voilà, demander de l'aide à notre pays, c'est pas si facile que ça. C'est pas... Voilà, c'est... Et puis de se voir partir à 40 ans, mon mari plus de 50 ans, moi plus de 40 ans, c'est pas évident du tout. C'est, voilà. Mais il fallait qu'on fasse ça pour les enfants. On n'avait pas le choix, vraiment.
Aïcha, qui est une demandeuse d'asile algérienne, nous expliquait qu'elle avait la possibilité de travailler en portant le voile, en faisant des tâches ménagères, mais qu'elle n'avait pas la possibilité de travailler comme cadre d'entreprise, ce qu'elle était en Algérie, en portant le voile. Comment vous comprenez ça ?
C'est là que, à mon avis, une grille d'interprétation des choses de type intersectionnel, où on va croiser la question du genre à la question du racisme et à la question de la classe, est très intéressante. Une femme algérienne, on a tendance à considérer qu'elle trouvera sa place dans, disons, les métiers les plus modestes du marché du travail. Donc, qu'on soit davantage qu'une femme algérienne, musulmane, puisse être une femme de ménage plutôt qu'une cadre. Et du coup, on va accepter certaines choses dans certains types de métiers qu'on n'acceptera pas dans les métiers les plus qualifiés.
Donc les personnes de la Matrami qui accompagnent Aïcha sont face à un choix cornélien, c'est-à-dire qu'à la fois elles veulent défendre son droit à porter le voile, à la fois elles veulent l'inciter à travailler dans des emplois conforme à ses compétences, mais en même temps, elles ont toute conscience que si elle veut travailler, il va falloir faire des sacrifices compte tenu de l'ambiance actuelle dans notre pays.
C'est complètement absurde parce que finalement, le risque, et c'est la réalité hein, dans les faits, c'est que certaines femmes vont choisir de se retirer du marché de l'emploi pour pouvoir rester voilées. Et donc, en fait, on va, en quelque sorte, c'est un cercle vicieux, quoi. On va couper les femmes d'opportunités, de toute une série d'opportunités, du fait de cette forme de discrimination. Plus on est dans des métiers valorisés, qualifiés, bien rémunérés, plus c'est difficile.
Je sais pas, moi, je parlais beaucoup avec Khadija et avec Dominique Retz. Je leur disais, moi aussi, je vais faire quelque chose. Comment je fais? Je veux vous rendre ce que vous me donnez, c'est pas possible, je veux pas être que bénéficiaire, parce que là c'est, voilà, je veux faire quelque chose. Et Dominique Grèce, elle m'a dit, écoute, tu considères ton français qu'il est bon ou moyen, ou tu vois comment il est en français? Je lui dis, non, ça va. Alors elle me dit, est-ce que ça t'intéresserait de donner des cours aux autres immigrants? Ben, j'ai dit oui. Là, je serais, voilà. Je veux vraiment aider. Je veux pas que venir juste pour le jardin et pour la couture. D'ailleurs, parce que j'aime pas trop la couture. Je viens juste pour discuter avec les femmes. C'est la vérité. J'ai rien appris. Je sais pas tenir une machine depuis une année que je viens ici. J'ai pas encore appris à coudre. Et donc, je viens juste pour rigoler, pour parler avec les femmes. Et voilà, que j'ai trouvé que, vous voyez, la notion de migrant, c'était pas que maghrébin et africain, parce que j'ai trouvé une Belge qui, elle aussi, et pourtant, ça fait presque 20 ans qu'elle vit ici, elle a la nationalité française, elle est blanche, les yeux bleus. Elle me dit, moi aussi, elle avait aussi le sentiment que j'ai maintenant. Et c'est elle, en fait, qui me rassure tout le temps. Elle me dit, t'inquiète pas, tu vas t'habituer à la France, tu vas, ça sera ton chez-toi. Parce que c'est vrai qu'on a cette, vous voyez, le nous et vous qui revient tout le temps et voilà.
De la chance. Les vacances, je suis malade. Avec les vacances, je suis malade.
Non,
en fait,
ça tombe mal.
Oui.
Non. Il y a deux factions. J'ai fait un tour, il n'y a rien.
Rien.
Donc. T'as vu?
Quoi?
Oui, oui.
Oh, c'est bien.
Moi, j'ai un grand yeux pour rien. Ça sert à quelque chose.
Et moi, c'est Bamba Salimata. Je suis âgée de 28 ans. Et je viens de la Côte d'Ivoire.
Quand êtes-vous arrivée en France?
Le 20 février 2020. Oui, je suis arrivée en France. Mais j'ai dormi au dehors pendant quelques jours. Et il y a un monsieur qui m'a aidée à m'amener chez lui. Après, il m'a dit si je peux voir les associations pour m'aider, parce qu'il lui peut rien faire pour moi, puisque j'étais enceinte. Donc, je suis allée voir les associations. C'était le 28 février, un vendredi. Et ils m'ont pris et puis ils m'ont amenée dans un centre d'hébergement. Je suis restée là-bas. Ils s'occupaient de moi comme une femme, parce qu'on m'a donné une chambre à part. Mais...
Parce que vous étiez enceinte peut-être
aussi. Oui, parce que j'étais enceinte. Parce que les femmes qui étaient là-bas, qui n'étaient pas ensemble, enceintes, ils dormaient ensemble. Comme moi j'étais enceinte, ils m'ont donné une chambre à part. Et j'ai dormi là-bas. Mais la cuisine, tout, on partageait avec les hommes. Et le salon pour regarder télé, on partageait tout avec les hommes, frigo, tout. Oui. J'ai peur de les gens qui sont violents. Oui, j'ai peur de les gens qui sont violents. Oui. Après quelques temps, j'ai perdu, quand j'étais enceinte, j'ai perdu la grossesse.
Vous avez perdu le bébé?
Oui, oui. Après, je suis arrivée à Verdun ici, je suis restée ici. Après, ils m'ont mis, c'est normal. Et ils m'ont appelée à Metz, et je suis allée à Metz. Et j'ai expliqué mes problèmes, ils m'ont dit de retourner à la maison. Et après, ils vont m'envoyer courrier s'ils vont m'accepter, si la France va m'accepter ou pas.
Est-ce que ça s'est bien passé?
Oui, ça s'est bien passé, bien. Oui, tu n'as pas le droit de parler librement du tout. Il faut, parce que le problème, c'est déjà écrit. Et tu amènes le feuille là-bas.
Vous venez avec votre histoire?
Il faut écrire et amener. Après, on t'appelle encore pour t'interroger. Donc, quand ils m'ont appelé, ces questions, ils me posaient et puis je répondais.
Quand j'ai perdu mon mari, j'ai dû rester à la maison. Ma sœur m'a rapporté que le frère de mon mari voulait m'épouser. Il avait déjà une femme et des enfants et avait le même comportement que son frère, méchant et violent. Aujourd'hui encore, je contrôle tous mes habits, car j'ai honte de mes cicatrices. Il y avait une fille, Aïcha, qui a fui au Maroc, car ses parents voulaient la marier. Elle voulait partir en Europe pour être libre. On est partis ensemble. Du Mali, on est parti en voiture en Algérie, après au Maroc. On n'avait plus rien pour rouler. Il a fallu travailler. J'ai rencontré une femme noire qui faisait le ménage. Elle m'a prévenu qu'elle travaillait depuis 3 mois, mais n'avait jamais été payée. Moi, cela faisait 2 mois et je commençais à m'inquiéter. Le jour où j'ai demandé à mon employeuse, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas payer. Mais comme on était illégal au pays, on ne pouvait pas aller à la police. Des personnes bienveillantes m'ont accompagnée en forêt en me donnant de l'argent, un sac, de la nourriture et leur numéro de téléphone. On a marché une semaine. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte suite à cette nuit de violence dans les champs d'olives. Les passeurs ont tout pris. L'argent, le sac, les passeports, et ils nous ont mis sur l'eau. Il n'y avait même pas d'eau potable. J'ai essayé de boire de l'eau salée, mais j'ai vomi. Un bateau de sauvetage est venu nous secourir au milieu de l'eau. Ils sont venus nous chercher. Et on est arrivé au port. Je suis arrivée en Espagne le 5 janvier 2021.
L'histoire que vous leur avez remise, c'est cette histoire que l'on vient d'entendre là. Et vous avez obtenu l'asile aujourd'hui?
Oui, oui. Oui, il m'a envoyé un message. Le 23, il m'a envoyé courrier par éducatrice le 23 de ce mois pour dire que oui.
Donc vous avez été victime de sévices de la part de votre mari, de torture pour ainsi dire. Vous avez été rejetée par votre famille. Vous avez été mariée de force à l'âge de 16 ans. 14 ans, pardon.
Oui. Je venais d'avoir mes 14 ans et en 2007, j'allais avoir 15 ans. Oui, mais j'avais pas encore mes 15 ans.
Ensuite, vous avez été exploitée au Maroc. Oui. Vous avez été ensuite violée au Maroc. Vous avez traversé la Méditerranée sur un bateau de fortune. Vous avez été sauvée in extremis pour arriver en Espagne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'occupent de vous en prenant en compte tous ces traumatismes que vous avez vécu? Est-ce que vous voyez un psychologue? Comment ça se passe?
Oui, oui. Avant, je voyais un psychologue, oui. Avant, oui.
Et maintenant?
Ça fait un peu longtemps. Ça fait un peu longtemps.
Vous pensez qu'il serait nécessaire de voir encore un psychologue?
Oui, j'y crois. Oui, de temps en temps, souvent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, mais on peut faire notre effort quand même. Oui, de vivre.
L'expérience de la violence des frontières, pour les femmes, elle est amplifiée, quoi. Il se trouve que quand elles arrivent en Europe, elles ont besoin d'en parler, donc elles en parlent systématiquement, les femmes que je rencontre. Et tout simplement, elles ont toutes été violées, et à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'elles sont violées souvent au passage de frontières, mais elles sont surtout aussi, elles ont connu la détention, elles ont connu la torture et elles ont été violées aussi en détention. Et parfois, elles ont aussi travaillé sur la route et elles ont été violées en travaillant sur la route. Donc en fait, il y a au moins trois modalités de violence sexuelle, si on peut dire ça comme ça, qu'elles ont subies. Et du coup, elles le vivent sur leur corps. C'est là que la dimension corporelle de la traversée, du voyage, est très importante pour comprendre la dimension genrée de ces trajectoires migratoires. Ne serait-ce que parce que souvent, elles arrivent enceintes et qu'elles portent en elles, en fait, la trace de ce qu'elles ont subi. Alors ça c'est la chose la plus évidente, et puis après il y a le fait que en étant une femme on va mettre en place des stratégies pour pouvoir passer on va nouer des relations, des contacts qui vont être probablement différents de celles des hommes. Il va y avoir aussi des formes de solidarité avec d'autres femmes, qu'il y a des familles qui se recomposent en route. Les enfants, la place des enfants aussi, qui est très importante pour ces femmes. Elles voyagent souvent avec des enfants et souvent elles vont s'occuper des enfants des autres. Plusieurs fois, j'ai rencontré des femmes ou des familles qui avaient pris en charge des enfants sur la route parce que la personne qui voyageait avec ses enfants avait disparu pour différentes raisons. Et donc, on a aussi des systèmes, des collectifs qui se recomposent en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le point de vue des institutions est complètement décalé par rapport à ça. Parce que du point de vue des institutions qui accueillent, une famille, c'est une famille au sens, il faut prouver qu'on est enregistré comme famille au départ. Or, avec les solidarités qui se créent en route, bien, il y a des gens qui ressentent vraiment le fait d'avoir fait famille en route, hein, ne serait-ce que parce que, on peut même tomber amoureux en route, vu le temps que ça dure, il peut se passer beaucoup de choses. Et du coup, c'est très très difficile après, ça fait partie des difficultés que ces femmes rencontrent, de faire reconnaître le fait de vouloir rester ensemble. Et ça, c'est d'autant plus dur que la menace réelle qui pèse sur ces femmes, mais aussi qui disons, qui oriente une certaine forme de gestion de ces arrivées de femmes, c'est la question de l'exploitation sexuelle. Et donc, la terreur des institutions qui, avec parfois beaucoup de guillemets, accueillent ces femmes, c'est qu'elles se retrouvent prises dans des réseaux de prostitution, de traite, et du coup, on va avoir tendance à les isoler des personnes qui sont avec elles.
Alors, je suis Colette Nordeman, et je suis, depuis quelques années que je n'ai pas compté, je dirais 5 ans, présidente de l'association meusienne d'accompagnement des trajets de vie des migrants.
Ces images d'hommes célibataires que l'on voit dans les médias, qui contribuent à instiller la peur, alors que ça va à l'encontre de toutes les statistiques. On le disait, 52% des personnes migrantes en France sont des femmes. Est-ce que de les rendre plus visibles contribuerait peut-être à changer le regard sur les migrations, en ce sens que la femme, dans nos sociétés contemporaines, et ça n'est pas forcément heureux, incarne la protection, la douceur, ou que sais-je encore?
Oui. C'est sûr que si les femmes étaient plus visibles, est-ce qu'on pourrait penser que les gens auraient moins peur des migrants? Partout où les migrants ont fait leur place, la peur n'existe pas. Vous avez peur de groupes inoccupés. Ces gens-là ont envie de travailler. Je veux dire, ils sont inoccupés. C'est aussi un truc terrible. C'est peut-être pour ça que c'est un élément de la peur. Je veux dire, je fréquente des gens qui ne sont pas très accueillants vis-à-vis des migrants, qui disent, ah ben on les voit déambuler toute la journée. Bah oui, ils déambulent, que vous voulez qu'ils fassent? Donc ils sont enfermés dans des apparts avec rien. Je veux dire, peut-être un frigo, une machine à laver, certes, mais rien, quoi. Rien pour s'occuper, rien. Bon, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ben ils vont dans la rue, puis ils déambulent, quoi. Et la peur vient avec ça. Ben oui, ils sont tout le temps dans la rue, ben ils font et puis s'ils peuvent se grouper à 3-4, ben ils déambulent à 3-4, black. Et ben oui, ben, les braves gens ont peur, quoi.
Il faut faire la montée, là.
Ça va, on peut continuer?
Non. Eh oui.
Je fais la montée quand même, parce qu'elle est trop belle.
Il y a aussi un peu d'auto-invisibilisation de la part des femmes qui souhaitent pas forcément qu'on attire l'attention sur leur trajectoire. Hein. La migration reste une transgression. Elles vont se tenir à l'écart des hommes, parfois. Elles vont être accueillies aussi différemment. Pas forcément mieux, mais différemment. Voilà, il y a des lieux spécifiques, des associations spécifiques, mais aussi des circuits migratoires spécifiques. Donc tout cela fait qu'elles sont moins visibles. Évoquer les femmes en migration, c'est peut-être davantage prendre aussi, faire la part aussi de ce qu'il y a de... C'est idiot, parce que je devrais pas dire ça, parce que c'est tout aussi important pour les hommes, mais de faire la part d'humanité, en fait, dans ce qui se passe sur les routes migratoires. Or, quand on veut construire la migration comme une menace, c'est probablement plus efficace de se concentrer sur les hommes.
C'était Femmes migrantes, femmes aidantes, coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier. Lecture Milena Elik, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Remerciements à Camille Georges et à toute l'équipe de la Matrami pour leur accueil en Meuse. Thank you.
LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Toutes les informations sur la page de l'émission sur franceculture.fr et les pages, c'est Marivona Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter dans la Meuse, c'est sur l'application Radio France. Demain, dernier épisode, une famille afghane en Touraine. Mais en attendant, restez à l'écoute.